Bonsoir à vous tous, je ne pensais pas que vous seriez si nombreux, merci.
Merci d'être là,
un vrai plaisir. Ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un peu, je dirais, décalé par rapport à ma propre recherche. J'ai été embarquée sur un projet par mes collègues Rachel Pankhurst, donc c'est pour ça qu'elle est aussi sur les diapos, parce que sans elle, ce projet n'existerait pas. C'est une grande spécialiste des SMS. Donc elle m'a embarquée sur ce projet parce que sur ces projets, disons nationaux et ces projets nationaux et internationaux, on a des équipes pluridisciplinaires, et notamment des linguistes TAL, des informaticiens et des sociolinguistes. Donc moi, je suis là au sein de l'équipe en tant que sociolinguiste pour porter un petit peu un regard décalé. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est à la fois, là c'est une synthèse, présenter une synthèse du projet là où il en est actuellement, des premiers résultats qu'on a, et également quelques analyses qui ont été menées précédemment sur la SMS. Donc c'est pour vous montrer un petit peu où on est la recherche sur la SMS à l'heure actuelle à travers ce projet. Donc là, c'est vraiment, comme le disait Cécile, c'est vraiment un gros projet. Et le but est vraiment d'être dans le croisement disciplinaire, ce qui est toujours, en tout cas pour moi, une richesse et vraiment un apport d'un point de vue des sciences du langage capital et fondamental. Donc, d'abord, comment fait-on pour avoir des SMS? Alors, ce qui est important, la collecte. Alors si je vous présente tout ça, parce qu'il me semble que c'est toujours important dans un projet linguistique, sociolinguistique, de montrer un petit peu l'arrière-scène. Ce n'est pas simplement des restes, mais c'est aussi quelque chose qui constitue le projet. Et c'était un an quand même de mise en place, donc à 6 chercheurs, un gros investissement. Donc la collecte, là, le projet s'intitule Sud4Science. Donc c'est un projet qui est mené à partir de Montpellier. Il y a eu d'autres projets du même ordre à Grenoble et à La Réunion pour la France. Donc la collecte, il s'agit donc d'une... Je ne sais pas si vous entendez là, si je me mets là comme ça ou ça. D'une collecte par téléphone, évidemment, parce que c'est des SMS qu'on envoie. Il fallait d'abord aller sur un site, le site qui est affiché là, le site donc du projet. Et c'était surtout important il y a eu un gros travail autour des droits et des libertés, notamment pour les mineurs, pour les accords qu'il fallait avoir. Donc c'était déjà un gros travail juridique avec les cellules juridiques de l'université à Montpellier. Et il y avait aussi donc une lettre de consentement, mais également un questionnaire. Le questionnaire aussi a été un gros travail d'élaboration, ça je vais vous en parler. Notamment pour éviter les biais le plus possible, mais aussi parce que, d'un point de vue sociolinguistique, ça nous intéressait beaucoup d'avoir non seulement les représentations autour des SMS, mais d'avoir un petit peu les pratiques langagières et d'essayer de se poser des questions pour saisir au mieux les pratiques langagières et linguistiques, l'usage des langues. Donc, on a eu, au bout de la collecte, il y a eu 11 participants seulement qui n'ont pas donné leur consentement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu participer. On a écrasé leur participation puisqu'il n'y avait pas leur consentement. Il y a eu simplement, alors ça on était très fiers de ça, simplement 25 participants qui n'ont pas rempli le questionnaire. Donc c'était bien parce que nous on voulait vraiment avoir aussi des données autour du questionnaire pour avoir des représentations sociolinguistiques. Donc ça, c'était assez intéressant. Et je pense que le questionnaire, franchement, c'est la première fois que je travaillais à ce point avec des informaticiens d'État. Ils ont passé des nuits à élaborer ce questionnaire pour qu'il soit le plus performant, le plus convivial possible et le plus pratique. Et vous savez, il ne faut jamais que ce soit trop long, il faut que les questions soient claires. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur les questions aussi. Donc on était assez contents parce que le résultat était probant. Donc, au bout du compte, on a eu, je dirais seulement, malgré tout, 482 inscrits. Alors, on a eu donc 482 participants, malgré... avoir les participants, on a déambulé dans Montpellier, on est passé par nos réseaux, et on a eu la plupart des participants étaient plutôt des jeunes. Alors, la collecte, c'est vrai qu'avec les... on a été... il y a eu un mécène à Montpellier, une tribu MAC, qui nous a prêté le téléphone. Donc on a pu travailler avec ces téléphones. C'était la première fois, les autres projets étaient sur des plateformes avec Orange ou avec. C'était très compliqué pour récupérer les SMS, tandis que là, nous, ça a été quasi automatique. Avec un logiciel d'extraction des SMS, on a pu les convertir après dans les logiciels de traitement de données, Excel tout simplement. Donc ça a été vraiment très pratique. Alors ce qui était important aussi pour inciter, là ça posait des questions éthiques, mais pour inciter aussi les participants, il y a eu des prix, et notamment donc un prix, un iPad à gagner. Ce qui a vraiment motivé, vous verrez, l'envoi de SMS pour essayer d'avoir un maximum de... Parce que ce n'est pas évident, à chaque fois que vous envoyez un SMS, vous devez le doubler et l'envoyer à l'autre numéro de téléphone. Donc bon, certains avaient bien compris, ils mettaient en copie automatique, mais ce n'est pas si facile que ça finalement, d'avoir des SMS. Donc là, c'est vrai que ça a énormément motivé, surtout c'était au début, sorti de l'iPad, donc c'était la collecte, c'était l'année dernière, à la même époque. Septembre-décembre 2011. C'était un projet en lien avec les acteurs sociaux et avec des mécènes, puisque les prix c'était des mécènes, des commerçants, des entreprises qu'on est allé chercher aussi. Pour les différentes, donc on s'inscrit dans un projet beaucoup plus large. C'est, et là il faut leur rendre hommage vraiment, c'est le projet. SMS for Science, qui vient de Belgique et qui a organisé un petit peu tous les protocoles. Nous, on est les derniers, sans doute, avec donc, on a les, je vous disais, 2004, ça a commencé par la Belgique, puis il y a eu donc la Réunion, 2008, puis également Texto 4, c'est le Québec, et. Également donc Montpellier pour nous. Donc vous voyez les chiffres, c'est on était très fiers, hein, on a récolté le plus de SMS, mais c'est sans doute grâce à plusieurs choses. D'une part parce qu'on n'a pas eu besoin de enfin c'est ça. Le record ne revient pas spécialement parce que ce que je disais tout à l'heure en aparté, la technologie a changé, les forfaits ont changé. C'est un projet qui s'inscrit vraiment dans les pratiques aussi sociales. Et c'est un projet, donc, maintenant vous savez, il y a des forfaits limités pour les SMS, ce qui n'était pas le cas par exemple au Grenoble, où certains ont vu leur forfait exploser. Donc nous, on est tombé à un moment donné où les forfaits étaient limités de SMS, donc ça aide quand même. On a eu plus de facilité aussi pour capter, pour récolter ces SMS par rapport aux plateformes, où certains se sont perdus, il y en a qui n'ont pas arrivé, technologiquement c'était plus performant. Et donc on a récolté, vous voyez, 93 114, on était très fiers. La Belgique est pas loin, 75 000, c'est entre parenthèses, et 30 000, c'est ceux qui sont traités, je vous expliquerai ce que ça signifie. Et pour les autres, vous voyez, on est très loin, 22 000, 5 000 pour le Québec, 24 000 et 12 000 pour la Réunion. Donc pour la Suisse, 24 000. C'est un projet donc qui s'inscrit vraiment, qui plaît énormément. La preuve, quand j'ai demandé à Cécile, je proposais plusieurs sujets, c'est elle a choisi les SMS.
C'est pas moi.
Ou c'est
pas
vous.
Moi,
enfin, donc c'est un sujet qui plaît beaucoup et c'est vrai que la communication a été. Il y a eu beaucoup de communication sur ce projet. Donc c'est Rachel Vankers qui est à chaque fois responsable du projet parce que elle en parle très bien, qui a fait la communication, et notamment il y a eu un très beau sujet sur TF1, je dis, et France 3. Vraiment, j'étais impressionnée, je ne pensais pas. Et là, si vous avez l'occasion, d'ici début décembre, il va y avoir un grand papier dans le monde, sans doute du week-end. Donc voilà, on est fiers. Donc voilà, pour ce qui est de notre propre projet, le nombre de SMS récoltés, donc je vous disais à peu près 93 000 sur 13 semaines. 433 donateurs, ce ne sont pas les inscrits, hein, c'est ceux qui ont pu donner. Hein, ce que je disais, quand on a éliminé par rapport à ceux qui ne pouvaient pas, parce que soit ils n'avaient pas les lettres de consentement remplies correctement, soit parce qu'ils avaient simplement donné le questionnaire, mais sans donner de message, c'est arrivé, hein, les 25. Et donc, ça faisait une moyenne à peu près 215 messages par personne, en sachant quand même que la gagnante a donné 8045 SMS. Donc si vous faites la moyenne, ce qui est énorme, c'est vraiment énorme. Et je ne sais pas, si vous, calcul, si, vous faites une, si, vous faites une, si vous faites un calcul en, en minutes ou en secondes, c'est énorme. Et donc on a quand même, c'est ça aussi le biais du projet, ce que je disais peut-être par rapport à l'attrait aussi des cadeaux, c'est qu'on a quand même 10 donateurs qui ont donné 37 000 messages, donc 40% qui ont donné un tiers des messages. Donc voilà, on a peut-être des messages qui sont récurrents, en tout cas dans leur forme. Donc pour les statistiques aussi, c'est embêtant de dire, enfin c'est embêtant, il faut réguler ça par rapport au nombre de donateurs ou aux donateurs. Alors ce qui était intéressant, c'est que malgré tout, malgré la technique, on se rend compte que les messages, même si on est beaucoup plus libre dans l'usage des SMS, que le nombre de mots, par exemple par rapport au message en Belgique, n'a pas beaucoup varié. C'était sur 11 mots à peu près par SMS, ce qui ne fait pas beaucoup de différence. Donc dans les pratiques même, le SMS reste quelque chose de concis, de fulgurant, d'immédiat. Puis si vous pratiquez, vous le savez. Alors quelques exemples, juste pour entrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on peut faire un petit jeu, on s'est amusé avec Rachel à faire ce petit jeu. C'est-à-dire, l'idée c'est de savoir, est-ce que ce sont des locuteurs qui ont 12 ans, 27 ans ou 57 ans qui ont pu écrire ces messages? Wesh, tranquille, tranquille, tu fous quoi? Ah bah non, ce week-end c'est bon. Faut que je fasse des courses d'habits. T'as eu le prénom, donc là il est anonymisé. 5, ça veut dire qu'il y a 5 caractères. Hôtel ou téléphone. As-tu le temps de faire le virement? A, le prénom en 3 caractères. Dernier message, j'ai fait quelques recherches. Ma table est probablement une table à téléphone, une table à thé des années 1920. Dans un style Louis XII ou Louis XVII, Louis XIII, excusez-moi, revisité. Il faut savoir que le style Louis XIII était considéré bucolique au XXIe siècle, au début du XXe. Je suis, ils sont authentiques, je vous promets. Je suis assez catégorique des éléments architecturaux XVIIe, mais aux dimensions graciles très 1920, pas contre l'origine. Donc l'idée, c'est de savoir, alors après les représentations, quel âge ont les participants. Donc on peut dire quand même peut-être pour les tranquilles, wesh, tranquille, tranquille, donc c'est l'élève de 12 ans, et pour le second aussi. En revanche, vous voyez, sur les deux suivants, t'as eu, donc le prénom anonymisé hôtel, et as-tu le temps de faire le virement A, c'est la personne, donc à la retraite, femme à la retraite de 57 ans, et qui a 5 ans d'université. Donc là aussi, ça peut... je ne sais pas, casser les représentations. Et c'est par contre donc l'étudiant de 24 ans qui a écrit le dernier message. Donc peut-être l'idée, c'est-à-dire à l'encontre des représentations. Et on l'a vu dans le questionnaire aussi, ce qui apparaît, c'est qu'on a posé une question sur les avantages du SMS. C'est quand même un des éléments qui revient de façon récurrente. C'est l'amusement, le jeu, la créativité. Et donc, qui participe aussi d'un certain jeu sur la langue et donc d'évolution aussi linguistique. On a des collègues, donc deux collègues du projet, Bertrand Verline et Catherine Détry, qui travaillent en analyse de discours, que vous connaissez peut-être, et qui ont extrait donc tous les SMS qui portaient, parce qu'on était ensemble sur un projet, donc moi je travaille sur la violence verbale aussi, donc on est intervenu à un colloque et ils ont travaillé plus particulièrement sur les mots doux. Insultes mots doux dans les SMS, donc je ne les ai pas mis là, mais je peux vous les citer juste parce que c'est quand même croustillant. Donc c'était ce genre de... Il y en avait quand même des... un peu direct, disons. Bisous vieille grognasse. Trois de te voir ma greluche, coutou coutou, en un seul mot. Je t'aime ma petite cochonne, mon petit cœur. Je pense fort à toi. J'espère que tout va bien et je t'embrasse, ma pupute. Alors celui-là est assez amusant, c'est pour vous dire, c'est intéressant d'un point de vue de l'usage des SMS et aussi des insultes vannes, rituelles, mots doux, les insultes mots doux, c'est un grand champ de recherche. Et là, de les avoir attestés, c'est assez intéressant. Vous savez, c'est ce qu'on a par exemple dans les collèges, on dit oh là là, ils parlent mal, ils s'insultent, etc. Donc ça, c'était un bon exemple. Hey, sale pute, ça va, dis-moi pour le Noël des parents, j'avais pensé à un GPS ou plutôt un appareil photo numérique, et vu les promos sur internet, on pourrait peut-être prendre les deux, et je voulais savoir ce que t'en penses. Biou, biou. Bisous, bisous. Donc vous voyez, ce qu'on peut faire aussi, donc sur un état aussi des pratiques langagières à un moment donné, attesté dans les SMS, donc des expressions plus informelles. Sur la façon dont on a eu travaillé, alors là où on en est en ce moment, c'est qu'une fois qu'on a récolté, après la récolte de tous ces SMS, une grosse partie du travail. Donc ça a été, vous voyez, la récolte de l'année dernière jusqu'en décembre. De janvier à juin, on a commencé, à peine, l'anonymisation, le transcodage, on n'a rien fait encore, c'est prévu pour janvier, juin de cette année, et la notation, si on a le temps, mais on n'a même pas... planifié. D'une part parce qu'il y a aussi des questions d'un point de vue sociolinguistique notamment, on se demande si c'est vraiment intéressant de le faire tout simplement, à qui ça peut servir et pourquoi. Donc la question de l'anonymisation est fondamentale par contre parce que ce sont des corpus, dans le contrat qu'on a avec la Belgique, c'est des corpus qui doivent être disponibles, voire non seulement aux chercheurs mais au grand public, donc il faut absolument anonymiser. C'est là que sont intervenus les informaticiens, donc en créant un logiciel Seek and Hide, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots, hein, Seek and Hide, Hide and Seek sur le cache-cache, donc pour anonymiser. Donc c'est un logiciel qui va chercher tous les mots qui n'apparaissent pas dans les dictionnaires des formes fléchies et qui apparaissent notamment dans les dictionnaires des noms propres. Donc ils sont repérés. Ça pose évidemment des questions parce qu'il faut repasser derrière de façon manuelle, par exemple notamment avec les SMS, quand vous avez des abréviations comme Nico pour Nicolas, ou bien des allongements comme Cédric avec un redoublement du phonème comme E par exemple, donc il faut repasser derrière. Ou vous avez aussi possibilité de confusion comme si vous avez Ben, B-E-N, ça peut être pris pour un prénom, pour un diminutif Ben, donc il faut passer derrière pour savoir si on doit anonymiser ou pas. Donc l'anonymisation, vous voyez, vous l'avez là, donc Coco n'est pas là, Eva non plus, tant pis. Lol, j'irai aux journées du patrimoine, Eva m'a dit que tu venais cette semaine, peut-être, bisous. Donc là, l'anonymisation porte sur les prénoms, mais on n'a pas que ça, hein. L'anonymisation, ça porte aussi sur les lieux publics, c'est là qu'est intervenue la cellule juridique, on a travaillé des journées là-dessus. Donc Coco, prénom 4, par exemple, dans les autres projets, ils n'ont pas mis le nombre de caractères, à Grenoble, ils l'ont pas mis, nous on a voulu le mettre justement pour ceux qui s'intéressaient au comptage de caractères, pour les linguistes qui voulaient s'intéresser à ça. Ensuite, la phase de transcodage, alors on a préféré transcodage plutôt que transcription, puisque transcription, on le garde d'un point de vue linguistique pour passer de l'oral à l'écrit. Donc transcodage, là la question se pose toujours, c'est-à-dire à qui ça sert? Pourquoi? Donc, peut-être pour le grand public, la plupart des chercheurs reviennent toujours au corpus initial. Donc moi, c'est vrai que sur la question du transcodage, c'est beaucoup de travail. Bon, il faut voir la pertinence. On se rend compte qu'on ne s'en sert pas beaucoup, finalement, du transcodage. Ce qui semble assez logique, puisqu'on est sur des pratiques authentiques. Donc le transcodage, vous voyez, c'est en français standard, hein, surtout de l'orthographe standard. Donc, et pas là, vous voyez avec l'accent, non plus, tant pis, donc qui est réécrit, lol, virgule, j'irai aux journées avec S du patrimoine, Eva m'a dit que tu venais cette semaine, donc peut-être, avec réécriture de peut-être, bisous. Donc c'est une réécriture en français standard. La notation, alors ça c'est très très compliqué la notation. On a essayé de limiter les formes à noter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on on prenait comme cible? Les autres projets, on a énormément, on a beaucoup discuté. On n'est pas toujours d'accord sur la façon d'annoter, donc là aussi, quand il faut rechercher, quand si on travaille par exemple sur la négation, sur l'interrogation, finalement on retourne dans le corpus parce que la notation, elle est aussi subjective. Bon, elle peut aider, ça peut être un premier défrichage. Donc vous avez comme annotation, on a ab, vous l'avez là, ab, absence de... Donc de quelque chose, binette, bin, c'est la binette, hein, c'est tous les sigles. Gras, c'est grammaire. On a là, pour langage, ça c'est tout ce qui est création, autre, mode pour modification, ordre pour orthographe et type pour typo. Donc, vous avez donc apps de N. Pourquoi on a mis apps de N, on n'a pas mis grammatical, par exemple. Donc là, on était pas tous d'accord là-dessus. Donc, et pas là non plus. N'est pas là, donc typo parce qu'il manque l'accent sur le là par exemple, prénom non plus, donc on a modification du T pour tant pis, plus le type c'est l'espace, donc vous voyez c'est quand même difficile à lire, hein, quand vous devez repérer après, par exemple l'agglutination pour tant pis, c'est compliqué de repérer en fonction de la notation, il suffit que ce soit pas noté comme ça, puis vous n'avez pas votre forme, donc c'est, enfin, vous avez aussi donc mode, pour tout ce qui est modification, pour LOL, et donc voilà, pour grammaire, avec les grammaires. Alors grammaire, c'est pour journée, pour le pluriel. Et en revanche, type, pour typo, pour l'accent circonflexe. D'accord ? Et orthographe, c'est essentiellement pour l'orthographe lexicale. Mais là aussi, on n'était pas d'accord, tous, évidemment, pour cette distinction. Donc, moi, j'étais très critique, je vous le dis, hein, que ça c'est le projet, hein, très critique par rapport à la question de la notation. Et je ne pense pas que ce soit finalement très, très utilisable au bout du compte. Alors, pour là, ce que je vais vous montrer maintenant, donc c'est toute la partie purement linguistique sur laquelle moi je ne travaille pas, mais pour vous dire un petit peu l'ensemble du projet. Donc, moi, je suis vraiment venue dans le projet pour avoir un regard sociolinguistique et pour essayer de poser des questions, les questions que vous posez par la suite, autour du questionnaire et puis autour d'autres pratiques qui ne sont pas justement simplement de la description linguistique. Ça, je vais en parler aussi après. Donc, la typologie que je vous présente là, c'est celle de Rachel Pankhurst, qui a beaucoup travaillé donc, sur la typologie graphique des SMS. Donc, la sienne est assez, je trouve, est assez agréable parce qu'elle est simple, finalement, s'y repère bien, et assez large. Donc elle a découpé elle en substitution, réduction, ajout et suppression. Je vous donne des exemples. Sur la substitution, donc on a à chaque fois deux critères, phonétisés et graphiques. Donc soit vous l'avez donc sur phonétisé entière, donc c'est assez haut, 7. Partiel, vous voyez, avec aussi, sur partiel sur le mot. Allez, bise, avec des variations, notamment de phonèmes par rapport à ce qui est attendu. Coucou. Et les substitutions graphiques, division, typographie, majuscule, c'est tout ce qui peut manquer. Est-ce que. Les icônes, les symboles, les rébus, A+, de grandes oreilles, avec des variations aussi graphiques, bisous, ce qu'on trouve de plus en plus pour bisous, et moi pour moi, par exemple. Donc c'est assez repérable et c'est assez facilement utilisable. C'est le même principe, mais pour la réduction, c'est la même chose. Donc on a des formes qui sont supprimées, à suivre, mort de rire, tout va bien, tout le monde, et lol, des troncations. Ordi, salut, net pour internet, des variations et la même chose dépendant sur les formes graphiques, les débuts de mots, des fins et des débuts de mots donc, qui sont réduits, donc de façon orthographique, hein, vous, peu, hôtel. Donc ce qui met l'écriture SMS à chaque fois dans l'analyse, ce qui est troublant en tout cas pour quand on est en sociolinguistique, c'est qu'on met à la fois justement l'orthographe, l'écrit et l'oral. Donc on a en sociolinguistique plutôt une sensibilité à la production orale. C'est vrai que sur par exemple la question graphique, sur la réduction, c'est bon. Pour moi, c'est moins saillant que le reste, en tout cas. Peu, hôtel, chute des E instables, comme douche, et les squelettes consonantiques et abréviations qu'on pratique beaucoup et qui correspondent à des abréviations un peu standards. Donc pour, dans, les consonnes doubles, pour A, les abréviations sémantisées, etc. Et les agglutinations aussi qui sont assez courantes. Le troisième principe, c'est le principe donc de la suppression. ou de l'ajout. Donc la suppression graphique notamment, assez fréquente aussi, sur le ça, le voilà, les accents, hein, qu'on a mentionné tout à l'heure, ou les ajouts avec répétition pour marquer souvent des effets plus émotifs ou en tout cas d'hyperbole. Voilà, donc les répétitions, super, la représentation signologique, et puis les ajouts de caractères. Alors, ça, c'est la description déjà existante. Nous, on ne va pas travailler là-dessus dans ce projet-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des analyses plus globales. Et moi, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était, puisque justement la technologie avait évolué, c'est de travailler sur l'analyse interactionnelle et de voir ce qu'on pouvait dire conversations par Internet, des conversations par SMS à travers les nouvelles pratiques. On envoie des SMS et surtout le fait qu'on pouvait collecter ces données. Alors ça, on n'a pas commencé à collecter ces données du tout. C'est la deuxième phase du projet pour la collecte. Et donc ça, ce sont des... L'extrait qui est là, il est tout à fait anecdotique puisque c'est un échange entre moi et Rachel, donc ça, entre Rachel et moi. Donc on pouvait... Il n'y a pas besoin d'anonymisation, ni de, voilà, d'accord, ni de consentement. On vous donne notre accord. Et... je pense que vous arrivez à lire, oui. Coucou, j'espère que le Maroc se passe bien. Je suis dans le train pour le Havre. J'apporte quoi samedi? Bise, Rachel. Je suis rentrée, c'était super. Je suis à Grenoble pour ANR. Samedi, juste 5 euros. Bonne présentation, bisous. Dis donc, tu bouges. À Paris, il neige. Bisous, à samedi 20h. Trop, mais ça tombe comme ça. À samedi aussi, neige, c'est beau. Bise, coucou, c'est à quelle heure ce soir? 20h. Ah, voilà. Donc, c'est ce genre de conversations qu'on a analysées, qu'on a présentées, on a fait déjà une présentation de ces conversations. Donc j'ai fait quelques photocopies d'exemplaires parce que les conversations sur... je ne sais pas si on aura pas assez peut-être pour deux, de ce qu'on avait présenté donc à Sherbrooke l'année dernière. Donc ce qu'on a essayé de voir dans l'analyse conversationnelle, l'analyse d'interaction, c'était déjà dans les grands principes. Hein, là, je vous donne vraiment des grands principes qu'on a posés pour analyser ces SMS. Donc le corpus que vous avez là, ce n'est pas le corpus Sud4 Science, c'est un corpus qu'on a récolté avec les étudiants de Master 2 qui travaillent sur ces questions-là. Notamment sur les échanges liés aux nouvelles technologies. Donc, essayez de voir donc, de façon assez classique, hein, les contextes interactionnels, quels étaient les rituels en jeu, les enjeux des locuteurs, et puis la question des émotions qui est assez important dans l'analyse interactionnelle. Donc, les contextes temporels spatiaux, en quoi, puisque le quand même, les SMS, il y a cette grande partie-là, puisqu'on ne sait pas où on est quand on parle, on n'est pas en face à face, donc il y a toujours cette dimension-là. Il fallait regarder pour voir quelle était la spécificité des SMS, la spécificité aussi des rituels conversationnels, est-ce que c'est très différent des conversations face à face, et puis la question des jeux d'émotions, donc qu'on repère intuitivement, très facilement, avec la ponctuation, les allongements, les répétitions. Les enjeux des locuteurs, donc, c'était de voir quelle était la place de l'histoire interactionnelle, qu'est-ce qui était en jeu. Est-ce qu'il y avait un thème interactionnel? Enfin, là, c'était. Voilà, l'analyse. Est-ce qu'il y a un contrat interactionnel? Quelles sont les positions hiérarchiques? Comment ça se joue? Et notamment, d'envoyer, par exemple, l'histoire interactionnelle. Parfois, on tombe sur des SMS, c'est très difficile de comprendre le contexte. Là, c'était félicitations, ma jolie, même pas que tu me dirais. Je suis vraiment contente pour toi, donc on en arrive dans la conversation, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Le thème interactionnel qui est souvent fréquent et annoncé, puisqu'évidemment on est dans un SMS, il faut bien dire de quoi on parle. Situé aussi, hein, là, ils sont situés par l'heure, le jour. Puis vous savez, une des premières questions de l'SMS, c'est t'es où? Je suis dans le bus, c'est toi, t'es où? Hein, vous voyez, là dans le SMS, l'échange d'SMS, c'était ça ce qu'on vous a présenté. Et donc après on est passé à l'analyse des échanges en travaillant sur grammaire des interactions, une analyse très très classique, hein, tour de parole, thème, catégorisation. Et ce qui était intéressant, ce qui a émergé, donc je fais un résumé hein, de ce qu'on a travaillé, c'est qu'il y avait des types discursifs qui étaient très très marqués. Et notamment qu'il y avait dans les SMS, on était essentiellement dans des SMS qui étaient informatifs et appréciatifs, très peu d'argumentation et de narration, ce qui s'explique par le cadre hein, et la contrainte interactionnelle. Donc ça, c'était assez intéressant à voir. Et du coup, on a quels étaient les effets pragmatiques qui étaient liés à ces types discursifs, notamment beaucoup d'interpellations, peu de modélisation, et les procédés discursifs, c'était très intéressant, donc beaucoup de dialogisme, mais aussi de mots du discours spécifiques. Donc il y a effectivement un type, je dirais, conversationnel, des SMS liés à des types aussi discursifs particuliers. Juste pour vous montrer un extrait, donc dans l'exemplier que vous avez dans l'échange numéro 2, qui est donc de type informatif. Donc vous avez, par exemple, le premier. Tu sais si maman travaille cet après-midi ? Oui, elle taffe. Deuxième, donc l'échange qui continue. Ok, il y a un magasin de jeux d'occasion à Polygon. Yes, Game et Micromania. Tu sais si c'est cher ou pas? Ça dépend de ce que tu veux. Moi, j'ai acheté des Sims à 5-10 euros. Ok, on ira voir samedi. Ils prennent les jeux aussi si tu veux en vendre. Cool, je voulais en vendre en plus. Ok, regarde sur Internet pour voir leur site, s'ils donnent des prix. C'est quoi le nom du magasin? Game Micromania. Ok, merci. Tu rentres à quelle heure? Je suis à la maison et j'ai pas cours cet après-midi. Ok, ben F va passer pour déposer une imprimante qu'il faudra me porter samedi. Essaye-la pour voir si les cartouches fonctionnent. Imprimante, ordi, oui, une comme la nôtre. Ok, pas de souci. Donc, ce qu'on a relevé là, c'est que vous avez donc un thème interactionnel unique à chaque fois. Pour le premier, c'est le travail de la mère. Pour le second, c'est le magasin de jeux. Et pour le troisième, c'est l'imprimante. Donc on a beaucoup moins, par exemple, dans les, on en a parfois, mais on a vraiment une progression thématique qui est souvent, donc c'est beaucoup moins complexe que dans les conversations, tout ce qu'on peut relever, spontané. On a des injonctions qui sont très peu modalisées. Donc vous l'avez, alors les chiffres ne correspondent pas parce qu'on a, on a enlevé un échange, mais vous avez, en 11B, vous avez « Ok, regarde sur Internet », donc des impératifs qui sont beaucoup, on modalise beaucoup plus dans les, pour éviter les menaces de face hein, dans les conversations. Vous avez aussi en 17B, ok, ben F va passer pour déposer une imprimante qu'il faudra me porter, hein, le, il faudra avec un déontique. Essaye-la, impératif aussi. Donc on a des injonctions non modalisées et des interrogatives directes, enfin des interrogatives qui marquent, je veux dire, qui induisent donc le type informatif. Donc vous avez, par exemple, en 1B, tu sais si maman travaille cet après-midi, c'est quoi le nom du magasin, en 12C, et tu rentres à quelle heure, en 15B, par exemple, sur le type informatique. Donc le type appréciatif, que vous avez donc l'échange numéro 1, félicitations ma jolie, donc c'était l'exemple tout à l'heure. Même pas, tu me dirais, je suis vraiment contente pour toi. Gros bisous, à bientôt. Oui, j'allais t'envoyer un SMS, merci ma belle. Tu vois, tout est possible, faut pas te décourager. Prends ton temps pour te préparer. Gros bisous à vous deux, à bientôt. Je plaisantais, donc, mais tout se sait à l'E4. Et qui était l'inspecteur? Donc sans doute pour le permis. Mort de rire, gros bisous à vous deux aussi. Comme d'hab, mais elle était de meilleure humeur, j'ai fait la route de Cuisson, bonne soirée, bise. Donc là, vous avez des formes, donc appréciatif acte menaçant quand même, même pas que tu me dirais, donc sous forme que pourrait être induite, il pourrait y avoir une forme implicite de reproche, et réparation avec j'allais t'envoyer un SMS. Donc plus des formes adoucissantes hein, pour face à la menace et aux reproches avec point d'exclamation, et réparation aussi de 1 en 3 avec je plaisantais. mais tout ce CA4, donc forme de, d'acte menaçant contre acte menaçant réparé. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le questionnaire, un des inconvénients qui apparaît le plus, malgré tout, à part les questions d'orthographe, ça c'est par rapport à la norme, ça apparaît énormément, c'est justement les questions de quiproquo, d'humour mal perçu, etc. Donc ce qu'on retrouve là, comment on s'y prend pour essayer de contrer justement ces effets d'implicite possible par SMS. Et mots du discours et procédés discursifs qui sont spécifiques quand même à l'écriture SMS, comme vous avez là, voilà c'est l'exemple que vous avez derrière, je ne vais pas tout le lire parce qu'il est long, l'échange numéro 5, que vous avez en 10F, 11F et 12F. Donc tu vas manifester ou quoi ? Je t'avoue que je vais mettre à profit mon après-midi pour chercher un stage plutôt. T'y vas toi ? Lol, laisse tomber les stages, avec les grèves, ils vont pas te prendre. Mort de rire, je rigole, je sais pas, peut-être faire un tour vers 15h sur la com pour voir l'ambiance. Donc sur le, on désamorce le « ils vont pas te prendre » avec MDR. Hein. Lol, donc on amorce. Comment t'es méchante, mort de rire, je me vengerai. Je te tiens au courant si je change d'avis. Ça marche, je rigole, tu as raison. Moi, je suis au chômage des cours, donc lol, je suis à l'AG. C'est fun, tout s'écrit, mort de rire, mort de rire. Il parle d'un blocage ou pas, bien sûr, mais on n'en est qu'aux perspectives. Donc vous voyez, quelle est la force là, de ces mots du discours. Donc on peut faire des parallèles avec tous les mots du discours qu'on a dans de la narration parfois, dans les parlers spontanés, comme des « un », des « ben », des « ouais », des « en fait », avec là des spécificités à la fois d'amorce, de clôture, de transition, de désamorçage, d'adoucisseur ou d'intensif, d'expressivité, de ces modalisateurs ponctuants. Autre spécificité, et ça aussi des SMS, c'est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le savez, mais les échanges en rafale, où on a, là c'est l'exemple numéro 5 toujours, mais au début, le coucou, comment tu vas, quoi de beau, comment se passent les cours, faudra se faire une soirée, F est là, au fait, scoop, je suis en couple, lol, te raconterai, dis-moi, t'aurais le téléphone assez, j'ai pas son téléphone et elle connaît pas son numéro, bio. Donc, là, on a, vous voyez, dans la réponse, on a mis en couleur, vous voyez, ce qui répond à quoi. Donc, alors souvent, si vous pratiquez aussi les SMS, soit on reprend les réponses, soit ça se fait spontanément. Donc, ce qu'on appelle les échanges à rafale et ce qui est repris ou ce qui est délaissé dans les interactions. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour les progressions thématiques et voir ce qui reste des topics, des thèmes interactionnels. Donc, la réponse, salut, ça va bien. Là, c'était quand même un échange assez performant, puisqu'il y a la plupart des thèmes qui sont repris. Non, je suis seule, je croyais que vous m'avez oublié. Cool, je vois qu'on a des trucs à se raconter. Non, je n'ai pas le numéro assez, désolé, bonne journée, à bientôt. Hein, voyez. Puis la dernière réponse, donc, tranquille. Lol, non, tranquille, on n'a pas oublié, c'est juste qu'entre les cours et ma nouvelle relation, j'ai pas trop de temps, lol, etc. Hein. Donc voilà pour les échanges qu'on appelle donc les échanges en rafale dans les interactions SMS. Voilà donc pour l'apport, je dirais, sociolinguistique interactionnel, parce qu'il n'y a aucun projet pour l'instant qui a travaillé de cette façon-là les échanges SMS. D'une part, comme je vous le disais, parce qu'on n'avait pas ces échanges-là, on n'arrivait pas à les récolter, et d'autre part parce que pour l'instant, bah, tout simplement, ça n'a pas été traité. Donc, ensuite, quel autre apport possible de la sociolinguistique ? C'est d'un point de vue du questionnaire. Donc, dans le questionnaire, il y a plusieurs étapes. D'abord, l'élaboration du questionnaire, c'est-à-dire la confection, le choix des questions, puis la passation, quand on le fait remplir, puis le codage, l'exploitation des données. Donc, dans l'élaboration du questionnaire, ce qui nous intéresse ici, pose des questions épistémologiques ou en tout cas des questions de recherche. Le choix des formulations notamment induit des constructions du réel, notamment sur les pratiques langagières, je vais vous montrer les exemples très concrètement, notamment sur le rapport aux langues et au plurilinguisme. Donc nos questionnements et précautions préalables étaient les suivantes. quelles sont pour nous les finalités du questionnaire, qu'est-ce qu'on veut faire avec. Il s'agit pour nous de saisir les pratiques et les usages, mais aussi les représentations de ces usages et d'emploi, d'usage du SMS. Alors comment on veut aussi présenter le questionnaire, qu'il soit simple et clair. Quels vont être les types de questions, ouvertes ou fermées, on a fait le choix des deux. Quelles sont aussi les préoccupations éthiques à avoir, par exemple la lettre de consentement hein, sur le questionnaire, la question des mineurs. La question sur le genre aussi, comment on présente le genre. Quand on travaille sur le genre, dire simplement masculin, féminin, c'est un peu restrictif. Donc, on a essayé d'aller un peu plus loin. Quelles sont les questions techniques rencontrées aussi? Et là, c'était les informaticiens qui ont travaillé sur ces questions-là. Donc, on a fait, j'insiste là-dessus, parce qu'on a pu travailler comme ça, parce qu'il y avait quand même des compétences pluridisciplinaires qui ont été mobilisées. Donc beaucoup d'échanges dans notre propre équipe et notamment dans la recherche de mécènes, dans la recherche de la construction aussi du questionnaire et également dans la construction du tirage au sort. Donc d'un point de vue technique, notamment pour le questionnaire, ça a été, on les a comptés, puisqu'il fallait les compter pour la Belgique, 250 heures de travail avec des essais, des améliorations techniques, 70 heures d'échanges, 300 courriels, ça c'est le compte rendu du projet, hein. Mais je trouvais ça intéressant de l'avoir quand même. Des rendez-vous téléphoniques, bien sûr. Par exemple, sur la barre de progression, vous savez la barre de progression d'un questionnaire que vous avez quand vous remplissez des questionnaires, savoir où vous en êtes dans la progression, dans les réponses. Ça a pris un temps fou pour la mettre en place. Donc les échanges techniques ont été très important. Et puis, je vous ai mis un peu pour le fun le dernier échange. Quand on a lancé, parce que ce qui se passait, c'est Rachel qui recevait les SMS, puis c'était diffusé à toute l'équipe. Et quand on a lancé, parce qu'il a bien fallu lancer à un moment donné la collecte, et on attendait, donc c'était minuit, pas encore reçu des SMS en tout cas, mais donnons-leur un peu de temps pour remplir le formulaire, donc vous voyez en 0h24. Et disons que le début de la campagne ne suscite pas tout, ne suscite sans doute pas autant de passion que le lancement du nouveau produit Apple. Donc voilà, ça c'était les échanges qu'on avait pour lancer. Mais ça a été très vite, à 3-4 heures du matin le mec. Les échanges, les aspects sociolinguistiques, alors là c'était sur par exemple le choix des langues. Alors ça c'était une vraie. Comment est-ce qu'on allait faire pour travailler sur le choix des langues, puisque donc finalement on a choisi de travailler sur la liste des filantes ISO, que vous connaissez sans doute sur toutes les langues qui sont répertoriées, mais on a regardé cette liste, on a exclu donc toutes les langues mortes et certaines familles de langues, et il restait quand même encore 463 langues et groupes de langues qu'on a laissées quand même, pour laisser le choix au locuteur. Et alors voilà, on a eu des longues conversations évidemment sur distinguer l'occitan ou le provençal, donc comme vous pouvez imaginer, et aussi sur la question de l'arabe, quel arabe, comment présenter l'arabe classique. Donc après discussion, donc c'était pour la discussion occitan provençal, en plus on était dans Languedoc, hein, on était à Montpellier, donc on ne pouvait pas laisser la question de côté. Comme c'est un vaste débat, on va laisser cela tel quel, donc on a laissé occitan et provençal. Et donc on a changé aussi l'ordre des langues, et par contre on a bien insisté sur la question d'arabe dialectal, marocain, algérien, tunisien, aussi parce qu'on était dans le sud de la France et qu'il y a beaucoup de variétés de langues. Donc voilà, ça a été aussi un gros travail pour savoir comment on allait identifier, puisqu'on leur au départ, on pouvait tout à fait leur demander d'identifier leur propre langue, ça aurait été sur leur propre représentation linguistique. Comme il fallait unifier les réponses, on a choisi donc d'être sur la liste défilante ISO. Pour les usages et représentations, de la même façon, donc être plus clair possible, là aussi c'était beaucoup de discussions. C'est sur la question des représentations, ne serait-il pas plus intéressant que la question d'après vous, qu'est-ce qu'apporte l'écriture SMS, soit moins orientée, permettant également aux personnes qui pensent ce qu'elles pensent de l'écriture SMS de dire, parce que nous on était effectivement, on voulait lutter contre la représentation, ça c'était le biais, Et donc on est resté quand même sur quelque chose d'essayer de plus neutre. D'après vous, quels sont les avantages et inconvénients de l'écriture SMS? De la même façon, on a simplifié la question, les deux questions ouvertes, hein, c'était les deux, c'était celles sur lesquelles j'ai travaillé. Sur l'avenir des SMS, on a réduit à pensez-vous qu'à l'avenir, les SMS seront encore utilisés? Merci d'expliquer votre réponse en nous donnant, si possible, des exemples. Et à notre grande surprise, les participants ont énormément répondu à ces questions. Ils ont vraiment argumenté, enfin, comme s'il y avait vraiment un enjeu pour eux, en tout cas un enjeu idéologique, du rapport à la norme, ça, ou à l'écriture, ou à l'usage. Pour donc la question de l'âge, donc voilà, là, c'était les questions sur l'âge. Alors je vous disais pour la question du sexe, on pouvait, on n'a pas eu de réponse comme ça, mais cocher les deux cases en même temps, féminin et masculin. On ne voulait pas être identifié d'un point de vue du genre. Sur le handicap, et donc pour les langues, je reviendrai là-dessus, je vais revenir. On a fait le choix, c'était là aussi une question de, par rapport à la question du plurilinguisme, puisque là on était quand même sur des pratiques plurilingues aussi, enfin en tout cas dans les questions possibles. On a commencé par dans quelle langue vous sentez-vous le plus à l'aise, et non pas par la langue maternelle, qui est toujours la première question. Je vais expliquer pourquoi, puisque c'était effectivement, les questions ne se croisent pas toujours. Alors, je reviendrai sur la question des langues. Pour les participants, donc les questions de l'âge, les participants, donc vous voyez, on a eu le premier résultat, participants donc de, essentiellement donc jeunes, à la moyenne d'âge 24 ans en moyenne, c'est un biais de l'enquête, je vous disais par rapport au réseau qu'on a pu toucher. Bon, c'est peut-être dommage. Pour la questionnaire, la question des professions aussi, c'était une question un peu cruciale. Ça a été très difficile de catégoriser les professions, puisque ça dit beaucoup de choses sur notre société aujourd'hui. Est-ce qu'on se définit par la profession dans l'agriculture, par le statut, est-ce qu'on est cadre, par le mode d'exercice, profession libérale? Donc il était possible là de cocher plusieurs cases pour s'identifier de différentes manières. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se sont identifiées autrement. Donc ça c'était voilà, l'aspect sociologique, comment on catégorise. Donc par exemple il y a eu des propositions, donc infographie, apprenti, aide sociale à l'enfance, même doctorant comme catégorie, donc beaucoup de catégories autres qui n'étaient pas celles-là. En sachant que... Ah, attendez, je sais pas, voilà, c'était ça que je voulais montrer. Donc, sur la plupart des locuteurs, donc des participants, sont essentiellement, là, c'était étudiants et scolaires. Donc là aussi, c'était un biais de l'enquête. Pour donc, la question des langues, ce que je vous disais, c'est la... Donc j'ai repris donc, les langues pratiquées. Dans quelle langue vous sentez-vous le plus à l'aise? Donc première question. Deuxième question, c'était quelles sont les langues, quelle est la langue que vous utilisez le plus? Et aussi ensuite, quelle est votre langue maternelle? Donc on avait trois catégories. Et réfléchir donc sur cet ordre-là. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans les pratiques linguistiques, par exemple dans les langues pratiquées, vous avez donc quelle est la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. C'était donc français, anglais, malgache. Mais la fréquence, c'est le français, et la langue maternelle, c'est le malgache et le français. Donc, sur les usages, les pratiques pour croiser tout ça, on a des tableaux assez extraordinaires, justement, qui montrent qu'il y a un croisement entre les pratiques, l'aisance dans la langue maternelle et puis la langue maternelle. Donc on se rend compte par exemple que le français est la langue plus courante utilisée, suivie de l'anglais, puis de l'espagnol, puis de l'italien. Et quand on compare avec la langue maternelle, on s'aperçoit que c'est le français, puis l'anglais, puis le wolof. Donc on n'a pas, de croisement entre l'usage et l'aisance des langues et puis les langues maternelles. Donc ça c'était... C'est intéressant pour si par exemple on veut faire une étude vraiment sur les usages plurilingues, en croisant toutes les pratiques, en sachant qu'on a eu quand même 34 langues différentes qui ont été citées sur 430 à peu près participants, ce qui est quand même pas mal. Parmi la langue, donc, c'était l'arabe, le bambara, le catalan, qui ont été le chinois, les créoles, qui sont arrivés en tête. Pour les usages, donc le téléphone et les usages, c'est les questions donc, qui ont été posées. Quel type de téléphone possédez-vous? Avez-vous un abonnement avec SMS illimité? Depuis combien de temps utilisez-vous les SMS? Combien de SMS envoyez-vous en moyenne par semaine? Combien de SMS recevez-vous en moyenne par semaine? On n'a pas traité encore ces réponses-là. Utilisez-vous la correction automatique, lecture intuitive pour la rédaction de vos SMS? Et donc on a quand même quelques résultats. Donc 74% de téléphones sont des téléphones dits intelligents, donc avec lesquels on peut utiliser des neufs et qui corrigent. 88% ont, vous voyez ce que je vous disais au tout début, ont des forfaits SMS illimités, ce qui favorise aussi l'usage des SMS. 80% des participants ont plus de 5 ans d'utilisation. Et là, dans notre corpus, on avait donc des représentations, la représentation de formation assez supérieure, 63% avaient donc une formation supérieure, mais due sans doute à la diffusion à travers l'université. Alors la question des questionnaires opinion, ce sont les deux questions ouvertes qui me semblent vraiment assez intéressantes. Donc, pour avoir vraiment la représentation sur les SMS, donc quels sont les avantages et inconvénients pour vous des SMS, et également quel est l'avenir pour vous des SMS. Alors, ce qui apparaît pour l'instant, c'est qu'on a quand même, on peut croiser à la fois des inconvénients et des avantages des SMS qui sont à la fois très élogieux et très critiques. Ce qui apparaît le plus, évidemment, c'est la reprise de la représentation sur le fait que ça, je vais vous lire, hein, les premiers sur les 30 premiers, par exemple, on écrit avec des fautes, donc le réduction des nuances d'expression et de pensée, la perte du niveau d'orthographe, on ne sait plus écrire comme il se doit, les gens, donc toujours c'est le « on », la généralisation, stéréotypie, font de plus en plus de fautes d'orthographe, on finit par oublier l'orthographe du mot, on a de mauvais réflexes qui se répercuteront dans la pauvreté du langage et rédactionnel, on perd la notion d'orthographe et de conjugaison, c'est moins clair, ça n'encourage pas à éviter les fautes, ça n'encourage pas à développer les idées. Donc c'est illisible, c'est moche, etc. En même temps, ce qui apparaît aussi, ce que je trouvais intéressant, je ne m'y attendais pas, c'est sur les inconvénients que je vous ai, et qui croisent la question de l'analyse conversationnelle et qui donnent une piste aussi, quels sont les moyens utilisés pour rompre les implicites et les ambiguïtés dans les SMS. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est ça, c'est une personne peut mal comprendre de manière écrite la manière dont on aurait dit quelque chose de particulier à l'oral, ça peut induire des disputes, ça peut être ambigu, on ne sait pas ce qu'on pense réellement, il peut y avoir des quiproquos, il y a des problèmes de l'intonation, de l'humeur, car il est difficile de percevoir ces choses-là par SMS, c'est peu explicite, on n'a pas toujours les bonnes réponses attendues. Parfois, on a du mal à comprendre ce que la personne veut nous dire quand c'est de l'humour, par exemple, etc. Donc, comment, par rapport, croiser ces représentations-là avec justement l'usage, hein, ce qu'on a vu, des pratiques discursives pour rompre ces ambiguïtés et aller du côté de. Pour rompre donc les faits implicites. Du côté des avantages, donc, vous voyez, je vous dis ça parce qu'il y a quand même aussi, comme je vous disais, on écrit beaucoup. Parmi les avantages, donc, qui ne s'opposent pas, on peut avoir les deux dans la même réponse, hein, donc tout le côté ludique, la rapidité, la concision, le fait aussi que c'est... Bon, la rapidité, c'est quelque chose qui revient souvent. La question aussi de la réflexion par rapport au face-à-face, qu'on peut attendre, on peut différer quand même tant soit peu la réponse. Donc toutes ces réponses-là sont quand même très très bien mentionnées. Ça n'empêche pas qu'on peut dire aussi que ça nuit à l'orthographe, c'est pas antinomique. Contrairement par exemple à la conversation téléphonique qui induit un certain nombre de passages obligés avant d'entamer le sujet réel de conversation, on peut être beaucoup plus direct. Hein. Ce qu'on a vu aussi dans les interactions par SMS, on a beaucoup plus de clôtures, on a énormément de clôtures. Bisous, salut, alors les bisous ça se décline de maintes façons, on a très peu de rituels d'ouverture. On a parfois salut, coucou, bonjour, mais pas très rarement. D'ailleurs, tiens, entre parenthèses, le SMS le plus court qu'on peut recevoir, vous pouvez réfléchir, hein, ça peut être le OK en deux lettres, mais un autre en deux lettres, c'est le CC, qui veut dire coucou. Donc, voilà, on peut avoir aussi cette. C'est mentionné aussi. Donc, ce qui est intéressant dans le questionnaire, c'est qu'il y a dans les réponses cette, ce regard métadiscursif sur les pratiques. Et de voir comment les pratiques, les représentations et l'activité métadiscursive croisent aussi l'usage des SMS. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup d'un point de vue de l'analyse sociolinguistique interactionnelle. Donc là, vous, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ce message est quand même, voilà, vous donne beaucoup de réponses. Oui, contrairement à la visiophonie qui est extrêmement contraignante, puisqu'on doit être présentable et qu'on doit tenir la caméra devant soi, si on est mobile, donc Skype par exemple, là, contrairement au téléphone où on doit se rappeler quand on est écouté, SMS est follement pratique. On peut communiquer sans bruit immédiatement, on peut envoyer une question qui a peu d'importance sans ressentir la gêne et déranger l'autre, pour si peu, et pourtant obtenir rapidement la réponse. Comment fais-tu la génoise à l'églantine, c'est pour ce soir. On peut envoyer des références, adresses, titre d'œuvre, du film, numéro de téléphone, que l'autre pourra lire à sa guise sans avoir à écouter un message vocal au prix de dièse, 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 etc. On peut faire coucou à un vieil ami pour lui dire qu'on pense à lui, même s'il est loin, ou si on ne se voit plus très souvent pour des raisons pratiques, sans avoir à gloser sur la famille, les amis, les enfants, la carrière. On peut avertir plusieurs camarades de classe à la fois qu'une salle a changé ou qu'un professeur est absent, impossible au téléphone et plus immédiat qu'un courrier électronique. Toutes ces choses peuvent être faites par courrier électronique, mais pas en direct. Elles peuvent être faites au téléphone, mais il faut le temps de s'acquitter des formules longues et c'est bruyant et peu discret. Seul SMS permet de simplifier l'interaction dans ces situations. Même si tout le monde avait un iPhone connecté à 3G en permanence, ce qui coûte cher, aujourd'hui, tout le monde n'est pas sur Skype, tout le monde n'a pas choisi MSN, alors que l'SMS est un système unique. Donc je trouve que cette, voyez, cette représentation-là est pour nous, en tout cas, particulièrement riche, non seulement pour les pratiques, mais pour dire que justement, on multiplie les pratiques de communication, que l'SMS, sans doute, ne sera pas détrôné, même s'il est utilisé avec des téléphones intelligents et qu'il y a de plus en plus d'orthographes de plus en plus normalisés. Et même, en même temps, il y a tout un jeu créatif autour du SMS, et puis si vous pratiquez, vous pouvez le savoir. Après, il y a toute la dimension aussi émotive qui n'est pas mentionnée là. À peine en disant on peut faire juste un coucou, hein, signifier des choses, donc juste mentionner une présence. Donc, on pense, parce qu'on a parlé souvent, on a dit bon, le SMS est en voie de disparition, et que ce que nous dit, en tout cas, à la fois la pratique et l'analyse des pratiques, notamment conversationnelles, et les réponses du questionnaire qu'on a loin, en tout cas, d'une pratique qui serait en train de se perdre ou de s'amoindrir. Elle change, elle évolue, notamment via les contraintes nouvelles ou les avantages nouveaux technologiques. Voilà. Donc, en conclusion, c'est un peu de rappeler ce qui fait évoluer la pratique, et sans doute que c'est la technologie qui fait évoluer la pratique. Avant tout, et ça c'est intéressant d'un point de vue sociolinguistique aussi. Et vous avez un dernier SMS. Salut, c'est Sagi et Rachel, cet été pour savoir si vous voulez aller à la plage cet après-midi. Voilà. En plein hiver, c'est pas mal. Voilà pour la présentation un peu de toutes les pistes de recherche qui sont ouvertes et l'état actuel de notre recherche autour des SMS.